Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, t'as conduit, toi, cette semaine, la BMW M240i X-Drive, que j'ai adoré. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Bien, en fait, j'ai vécu moins d'émotions à bord de cette voiture-là que je ne l'aurais pensé.
OK. Je
veux pas te dire que j'ai été déçu, parce que pour moi, c'est une extrêmement belle machine, mais... Effectivement, ça me semble très robotique, ça me semble tout planifié, il y a pas beaucoup de place pour les manipulations du conducteur.
Bon, il n'y a plus de boîte manuelle.
Il n'y a plus de boîte manuelle. Ça, pour moi, c'est un élément qui est décevant. Et je la trouve un petit peu moins belle, la nouvelle série 2 coupée, le modèle essayé. Je la trouve un peu moins belle qu'auparavant. Tu sais, ses ailes bien rondes, bien larges. J'ai l'impression qu'on ne retrouve plus ça. Même chose pour... La partie avant est pour moi très belle, mais l'arrière, les feux sont moins...
C'est tronqué, là, ouais.
C'est moins distinctif que ça l'était par le passé. Cela dit, bon, la version d'essai était peinte en Thunder Night métallique, qui en bon français c'est aubergine métallisée. Là.
Ouais.
Donc de ce côté-là, oui, ça en met plein la vue, c'est chic, c'est beau. Puis bon, je te disais ne pas avoir vécu de très grandes émotions. C'est un 6 cylindres en ligne de 3 litres, de 382 chevaux dans une voiture. De petits formats, là, petit, une série 2. Donc, oui, les accélérations sont épatantes. La tenue de route est au rendez-vous, je te le confirme. Puis la sonorité,
celle d'un 6 de BMW.
Chez BMW avec un 6 cylindres et ça, il n'y a pas grand-chose pour égaler ça. J'ai regardé un peu les ensembles d'options pour le véhicule. Il n'y en a pas tant que ça.
Non, hein? C'est ça, ironiquement.
Souvent, on a le réflexe de penser que tout ce qui est Audi, Porsche, BM, Mercedes, on peut rajouter...
Oui, mais c'est vrai dans des gammes de VUS dans des grandes berlines, mais là-dedans, c'est des produits plus niche.
Il y a trois ensembles d'options. Un qui me paraît plus intéressant, l'ensemble premium qui vient avec les phares adaptatifs, qui vient avec un meilleur système de son... Mais tout ça pour dire qu'à 65 000 $ incluant cet ensemble-là que j'aurais tendance à recommander, on a toute une machine entre les mains. Et je me demande à quoi on peut la comparer.
En fait,
elle est un peu seule au monde, là.
Elle est un peu seule au monde, puis il n'y a plus beaucoup de coupés dans ce segment-là.
Parce que la série 2 elle-même, on va la comparer à quoi? Une CLA. Bon, il n'y a plus de classe A. On va la comparer à la famille A3, S3 chez Audi.
Mais là,
on a un coupé là, chez BMW. C'est ça qui est rafraîchissant, qui est intéressant. Et pour moi, elle est vraiment seule au monde.
En termes de prix, on peut se comparer à une Lexus RC 350, mais...
C'est différent.
C'est très différent.
Mais en même temps, c'est ça. Des coupés, il n'y en a pas beaucoup. La RC est un peu plus grosse, là.
Ouais, un peu plus bourgeois, là.
Cela dit, j'ai pas plus envie de m'asseoir à l'arrière d'une RC que de la M240i, là, parce que, je le mentionne, là, il n'y a pas de place.
Non, c'est ça.
Il n'y a pas de place. Alors oui, un beau moment passé au volant de cette voiture-là, mais sans grandes émotions. Je pense que c'est ce que j'ai retenu de cet essai-là. Toi, Antoine, tu as conduit le Toyota BZ4X 2023.
Ouais, j'essaie d'oublier le nom, là.
Oui.
C'est
un exercice de diction.
C'est,
il faut le prononcer
avec... C'est pas une bonne idée.
Non.
T'sais, le nom, c'est pas une bonne idée. BZ pour Beyond Zero 4, parce que c'était à mode de mettre un 4, parce que c'est un X, parce que c'est un pseudo 4x4. Et ironiquement, la version que j'ai conduite, c'est une version traction.
Donc, est-ce que c'est un B2Z4X?
Bref. Ils n'ont pas vendu de RAV2 non plus.
Non, c'est vrai. Hein? C'est vrai.
Puis de Two Runner. Parce qu'un 4Runner, ça s'est fait en version propulsée aux États-Unis. Mais bref, BZ4X, premier véhicule électrifié de masse chez Toyota, bien qu'on ait vendu des RAV4 électriques pour le marché californien à plusieurs reprises.
Assemblé en Ontario, non?
Notamment assemblé en Ontario, mais la première version, c'était une version japonaise, vendue en 1997. On remonte à loin, là. Alors, c'est pas parce que Toyota n'était pas capable d'en faire des véhicules électriques.
C'est parce qu'on voulait
rien savoir. Mais là, on arrive avec un véhicule, je dis de masse. Attention, parce que la production sera pas si grande que ça. Puis on estime que à peine quelques milliers d'unités toucheront le sol canadien. D'ailleurs, elle ne sera vendue, cette voiture-là, qu'au Québec et en Colombie-Britannique. Tu ne pourrais pas t'acheter ça en Ontario, par exemple.
En même temps, quel est l'intérêt dans les provinces de l'Ouest d'acheter ce véhicule-là?
Bien, en fait, il commence à y en avoir des crédits gouvernementaux applicables, oui, au fédéral. Alors, tu sais, ça pourrait être un peu pertinent, mais on n'a pas de volume et on sait que le plus gros marché se situera dans ces deux provinces-là. C'est un véhicule qui est développé en collaboration avec Subaru, mais il n'y a pas beaucoup de Subaru là-dedans, hormis le fait qu'on a travaillé sur le système de rouage intégral que je n'ai pas essayé. Soit dit en
passant.
Parce
que c'est une version à deux roues motrices.
C'est ça. Et alors, chez Toyota, tu as des versions à deux à quatre roues motrices. Subaru n'aura que des quatre roues motrices et on dévoilera les prix dans quelques semaines chez Subaru. Hâte de voir comment on va jouer cette carte-là parce que la version à traction est celle qui permet aux autres d'être éligibles aux crédits gouvernementaux. Parce que si on partait avec un véhicule à 55 000 $ ben là, les mêmes crédits ne s'appliqueraient pas nécessairement. Bien que ce soit complexe là, de comprendre les crédits aujourd'hui. Là,
oui. On peut facilement s'y perdre et ça va changer dans les prochaines semaines. Là.
Bon, alors, le BZ4X, c'est quatre versions. Version L de base à 45 000 $ là, j'arrondis. Mm-hmm. 5 000 $ de plus, la version LE que j'ai conduite avec un petit peu plus d'équipement, mais c'est loin d'être un véhicule de luxe. Et tu tombes à la version XLE à 55 000 qui, elle, a le rouage intégral. Donc, si tu veux un véhicule bien équipé, t'es obligé de prendre le rouage intégral à 55 000 et remarque que c'est à peu près le même prix d'entrée pour un rouage intégral chez Hyundai avec l'Ioniq 5.
Oh oui, mais on est nez à nez. Là.
On est nez à nez dans la stratégie de mise en marché des modèles. Et puis finalement, ben, t'as un modèle XLE Platinum qui, lui, est à 62 750 $
Est-ce que c'est ce qu'on va livrer le plus parce que c'est ce qui est le plus payant?
Là? Ben, on verra ce qu'on fabrique. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va aller jouer dans les hautes sphères. Puis Toyota affirme que 65 % des ventes seront du 4 roues motrices, donc ouais. 55 000 et plus.
Parce qu'on se rappelle, là, quand le RAV4 Prime était arrivé, on était tout énervés, là, mais des versions SE, c'était 3 % des ventes. Là.
Ouais.
On voulait vendre du XSE avec l'ensemble technologie.
Oui, exactement. Alors là, moi, j'ai conduit la version à traction.
Ouais.
Puis évidemment, il y a eu quelques nouvelles un peu bizarres là, concernant le modèle à rouage intégral qui sont sorties dans les dernières semaines, notamment le fait qu'on ne pouvait pas se recharger à partir de moins 20.
C'est très embêtant.
Ce qui n'est pas vrai. Ouais. Parce que la vérité, c'est qu'il faut que la batterie soit à une température en deçà des moins 20 degrés pour que les risques qu'on ne puisse pas recharger et uniquement sur une borne de niveau 3 se présentent. Une situation qui existe sur d'autres véhicules électriques, soit dit en passant. C'est juste que Toyota a été transparent et l'a dit. Mais ça affecte la batterie de la version à rouage intégral, qui n'a pas la même que la version à roue motrice avant, bien que la taille soit à peu près la même. T'as 71.4 avec la traction, 72.8 avec le modèle à rouage intégral, mais deux fournisseurs différents parce qu'on n'était pas capable de fournir suffisamment de batterie à une seule usine pour les deux modèles. Alors, la version à traction, ben, a cet avantage de pouvoir se recharger plus efficacement, plus rapidement, peut-on dire. Une autonomie de 40 km supplémentaires annoncée à 409, donc 367 pour la version à rouage intégral. Et aussi cet avantage de coûter moins cher.
Donc, il n'y a que du bon, là.
Moi, je pense que la version à traction, la LE à traction, est une formule très intéressante, une belle alternative à une Chevrolet Bolt EUV, par exemple.
Qui est un autre véhicule électrique à traction.
Qui est un autre véhicule
électrique. Parce qu'on parlait de la Ioniq, et c'est le cas de bien d'autres multisegments électriques. Quand on fait le choix des deux roues motrices, eh bien, on a les roues motrices arrière, ce qui plaira pas nécessairement à tous, là.
Mais là, on a une version à traction. Et, bon, petit test, moi, je suis parti de chez moi pleinement chargé. On m'affichait 434 km au compteur lorsque je suis parti de chez moi.
Jusque-là, tout va bien?
Ben, jusque-là, tout va bien parce que c'est plus que ce qu'on annonçait initialement. Or, en activant le chauffage, il fait 15 degrés à l'extérieur.
Oh oui, donc, il n'y a pas de dégivrage, il n'y a pas de siège chauffant, il n'y a rien. Là.
Le seul fait d'activer le chauffage ou la climatisation, l'autonomie passe de 434 à 338 km.
C'est ridicule.
Et là, ça, c'est affiché. Moi, j'ai posé des questions aux gens de Toyota pour savoir, bon, J'ai jamais vu ça de ma vie, moi, une chute de 100 km ou de 20-25 %.
Juste en allumant
le système. On n'est pas l'hiver, là. Et eux m'ont dit, oui, mais l'affichage est très conservateur. Blablabla. Alors là, j'ai pris la route. J'ai commencé mon premier segment de route. Chauffage éteint, donc pas de chauffage à bord du véhicule. Et effectivement, en faisant des calculs, c'était logique. L'autonomie à 430 km avait du bon sens parce que je consommais quelques 15 kWh par 100 km pour une batterie de 71,8. Ça marche. Ou 71,4, ça marche. Le calcul mathématique est bon. Active le chauffage, la consommation grimpe à 21,5 kWh par 100 km. Même consommation que ce qu'on avait constaté cet hiver avec une Ioniq à 4 roues motrices qui fait 320 chevaux. On en a 201 ici.
Et forcément, quand on a les deux moteurs et les 4 roues motrices, ça consomme plus.
Alors, la consommation énergétique du BZ4X est très élevée du moment où tu actives le chauffage. Et tu vas l'utiliser 80 % du temps, là, veux pas. Et ça sera quoi cet hiver? Donc, est-ce que le 338 va devenir 225 parce que... Tu comprends-tu? Alors, ça va chuter de moitié facilement.
Et pourtant, on dit avoir le système de thermorégulation.
Thermorégulation et pompe à chaleur, ce qui est très important.
Il n'y a pas de raison valable qui explique
Hormis une technologie qui ne fonctionne pas bien, c'est visiblement ce qu'on constate. Maintenant... Alors ça, c'est la grosse déception de ce véhicule-là. Et je n'ai pas encore essayé la version à 4 roues motrices qui risque d'être encore pire. Parce qu'on dit...
Elle devrait consommer encore plus.
Ben, elle va consommer plus. On dit que c'est une batterie qui est visiblement moins efficace parce que celle-là ne peut pas être rechargée l'hiver ou, disons, aura plus de difficultés à être rechargée l'hiver par temps très froid que celle de la version à traction. Ça augure pas très bien, si tu veux, mon avis. Maintenant, je t'avoue que j'ai presque été étonné du comportement routier. Je m'attendais à un véhicule... dole à mourir, là, parce qu'on sait que des fois, des Toyota, c'est moins excitant à conduire que d'autres. Et là, ben tu sais quoi? Suspension indépendante aux quatre roues, direction qui est assez précise, 201 chevaux, mais ça a quand même du nerf. Le véhicule a cet avantage de ne pas être léger, mais d'être plus léger que ses concurrents. On est à 1900 kg, donc c'est lourd, mais c'est moins lourd qu'une Ioniq 5, c'est moins lourd qu'une V6. C'est le poids d'une Bolt, mais c'est un véhicule plus gros. Alors, ça, c'est un petit avantage, tu veux, à mon avis. Puis au final, le comportement, c'est pas mal. Ce que j'ai pas aimé, par contre, c'est le fait que l'instrumentation soit placée au-dessus du cerceau du volant. C'est contre-intuitif au niveau de ce que...
La lecture est complexe.
La lecture est pas évidente. Et ça, ben ça s'explique par le fait que les ingénieurs au Japon, eux, ont développé un volant scié en deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie supérieure au volant, comme dans une Tesla Model S.
Ben, chez Transport Canada, ils sont pas fans de ça.
Non, hein? Alors, ils ont décidé de mettre un volant conventionnel et ça donne cet effet-là, c'est-à-dire d'avoir une visibilité assez particulière. Là. Ça demande adaptation, vraiment. Mais sinon, les sièges sont confortables, ça se conduit bien, c'est facile.
Il y a de l'espace?
Oui, il y a de l'espace, il y a un beau volume de coffre, 750 quelques litres dans le coffre. Alors, c'est quand même... J'ai hâte de faire un essai comparatif. La version à traction me semble plus intéressante que le modèle à 4 roues motrices, mais il faudra l'essayer cet hiver parce que l'autonomie, dès que tu actives le chauffage, c'est un sérieux problème.